Les trois sagesses, session de rentrée de l'année scolaire 94-95 par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, première conférence du 9 septembre 94.
C'est la salle de cours des grands jours. C'est très bien, j'espère que vous entendez là-bas dans le fond. Si vous n'entendez pas, vous ferez oraison. Pour ceux qui entendent et qu'ils reçoivent bien la parole de Dieu. C'est donc quelque chose d'un peu nouveau que nous commençons. Dieu n'a pas de vacances, puisqu'il n'a plus de temps à lui. Et avoir des vacances, c'est d'avoir du temps à soi. Donc un religieux, un contemplatif, n'a pas de vacances. Mais il faut bien l'inculturation par rapport aux vacances. C'est-à-dire un temps qu'on doit un peu donner constamment, au moins pour les apôtres. Pour la vie contemplative, c'est un peu différent. Pour aider, soutenir le peuple de Dieu dans sa croissance. Et pendant le temps des vacances, Saint Jean espérance, Saint Jean éducation, surtout, doit être en pleine activité. Et il y a des retraites aussi pendant ce temps-là. Comme le temps des vacances se termine au début de septembre, des vacances scolaires, nous reprenons plus vite. Avant, on était un peu un régime universitaire et on trouvait que ces 3 mois étaient un peu trop longs. Et c'est vrai, il vaut mieux répartir différemment le temps où il n'y a pas de cours. Un peu plus à Noël, un peu plus à Pâques, pour mieux ponctuer notre année. C'est pour ça qu'on a changé. Et ces 3 jours sont faits pour être une sorte de retraite au niveau de l'harmonie de notre vie monastique et apostolique. Mais surtout l'harmonie au niveau de notre vie monastique. Et aussi pour ceux et celles qui suivent les cours indépendamment, mais tout en vivant dans le rayonnement d'une vie monastique. Parce que nous ne sommes pas une université, hein. Dites-vous bien ça. On veut rester avant tout et plus que jamais une vie monastique, chrétienne, ouverte à la vie apostolique pour le monde d'aujourd'hui. Les universités sont nées dans la vie chrétienne, il ne faut pas l'oublier. Elles sont nées de la vie chrétienne. Elles se sont laïcisées d'une façon très maladroite, il faut le dire. De sorte qu'elles dépérissent aujourd'hui. Il y a un mal qui se fait sentir de diverses manières, mais qui se fait sentir dans le déséquilibre complet de ce que représentent les études universitaires par rapport à la vie concrète et réelle du monde d'aujourd'hui. l'université le savent. Alors il faut surtout pas que nous tombions dans ce malaise. Il faut au contraire que nous comprenions ce retour à la source, mais un véritable retour à la source, de ce que présente et peut présenter des études universitaires, c'est-à-dire universelles, pour le monde d'aujourd'hui. Non pas dans tous les domaines, nous n'allons pas avoir une faculté de médecine, une faculté de sciences, une faculté littéraire, craignez pas. Nous voulons maintenir ce qu'il y a de plus universitaire dans l'université. Et nous verrons que c'est la sagesse. Et c'est ça que nous maintenons. Mais nous n'attendons pas une sagesse qui est un sommet, second étage, ou troisième étage, sans qu'il y ait un sous-sol. C'est ça l'avantage de la philosophie. C'est que la philosophie doit nous faire tout le temps toucher la terre. La terre vint au secours de la femme. Et la terre doit venir au secours de l'Église et de chacun d'entre nous. Et la terre représente ce réalisme de notre philosophie qui tient compte que nous sommes des êtres à la fois spirituels et sensibles et matériels. C'est là le réalisme même de la philosophie, et nous y reviendrons. Je voudrais, dans ce premier contact, pour ces trois jours, rappeler le sens profond de nos études. Et pourquoi nous faisons ces études? Nous sommes avant tout et en premier lieu, c'est pour ça que je disais qu'on n'est pas une université, nous sommes avant tout et en premier lieu pour l'Église, une communauté donnée au Christ par Marie, par Saint Jean. Ceci c'est premier. C'est pour ça que le rythme de notre vie doit être un rythme monastique, un rite religieux. Et ceux qui viennent suivre les cours ici et qui ne sont pas de la communauté Saint-Jean, pas encore de la communauté Saint-Jean,
devienne une école d'art. Vous comprenez?
monastique, apostolique. Et pour cela, c'est très bon qu'il y ait sans qu'il reste une école d'art, mais une école d'art contaminée par la vie monastique. Vous voyez bien, c'est des nuances différentes. Une école d'art, parce que c'est ça qu'il faut. Il y a une œuvre. Et une œuvre qui doit rester artistique. Il y a un haut niveau artistique. C'est-à-dire l'art, dans ce qu'il a de plus, de meilleur, c'est un art chrétien. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas dire que l'art chrétien est un caractère particulier de l'art. Non. C'est l'art tout court, depuis l'incarnation. Si on croit à l'incarnation, on doit se dire ça. Et ça, c'est très important. C'est pas une modalité particulière. Vous voyez, on fait des chapelets, donc c'est de l'art chrétien. C'est vrai, faire des chapelets, c'est de l'art chrétien. C'est les sabots du chrétien, le chapelet. C'est quelque chose d'absolument nécessaire pour marcher droit. Même s'il y a de la crasse par terre, on est couvert pour cela. C'est ça que servent les sabots pour les Bretons. Et le chapelet est là pour ça. Alors c'est de l'art chrétien, artisanal, c'est bien évident. Alors qu'il se répand. Et même une contemplative peut faire des chapelets artisanales, qualitatifs. Ils font des chapelets, des icônes. Et puis, mais l'art aussi proprement dit. Je crois qu'il faut avoir le sens de la noblesse de la foi et qui aboutit à cela. La foi ne détruit pas notre intelligence, elle l'ennoblit. Et notre intelligence, nous le verrons, est à la fois artistique et notre intelligence est spéculative, contemplative. Comprenons donc qu'il faut qu'avant tout et en premier lieu, nous ayons cette structure monastique. C'est pour cela que nous maintenons le silence. Le silence est une exigence de la vie monastique. Et la première chose qui se perd de la vie monastique, c'est le silence. Et c'est une dégradation. Alors que nous devons, nous, être très attentifs à cela. Il faut que nos frères, que nos sœurs contemplatives, que nos sœurs apostoliques soient gardiennes de ce silence vis-à-vis de l'ouverture que nous faisons pour les cours, vis-à-vis de ceux et de celles qui ne sont pas dans la vie monastique, mais qui, de fait, participent au climat monastique. Il faut qu'il y ait cela. Il ne faut pas dire du tout que ce climat monastique fera que nos études seront moins spéculatives. Non, au contraire. Grâce à la vie monastique, elles peuvent aller plus loin. Mais elles ont leur caractère spécifique. Il faut bien faire ces distinctions-là et les comprendre et les vivre, surtout. On vit de notre vie monastique. Et cette vie monastique nous permet l'accueil universitaire. Parce que s'il n'y a plus de vie monastique, la vie universitaire se dégrade très vite. Ce sont des ponts aériens. Et on ne sait plus sur quoi ça repose. Et quelquefois, c'est uniquement une espèce d'habileté intellectuelle. Mais ce n'est plus la vie monastique. Ce n'est plus la vraie recherche de la vérité. La recherche de la vérité se maintient dans un climat de vie monastique. Pour nous, c'est très net. Et ça doit être comme ça. Si parmi vous, il y en a qui ont des difficultés là-dessus, notez-les. Et vous en ferez part à qui de droit. C'est-à-dire à ceux qui sont chargés de maintenir dire ici une recherche de vérité. Et vous savez que le dernier chapitre a distingué la recherche de la vérité au niveau théologique, au niveau philosophique. Et on a voulu nommer un doyen au point de vue philosophique pour bien montrer que la structure philosophique est distincte de la structure théologique, mais sans séparation, mais une distinction très nette, et que la vie monastique enveloppe ces deux grandes orientations, et que pour que la vie monastique enveloppe ces deux grandes orientations, il faut que la vie monastique soit très fervente. Si notre vie monastique n'est pas fervente, n'est pas très déterminée, alors, fatalement, la recherche de la vérité risque de vouloir s'imposer comme structure de vie communautaire et de vie universitaire. Et alors, à ce moment-là, nous ne serons plus ce que nous devons faire pour l'Église et pour l'humanité. Ce n'est pas un retour en arrière, revenir au Moyen Âge. Non, c'est essayer de repenser dans notre monde d'aujourd'hui face à cette laïcisation qui se veut absolue et qui veut tout prendre dans la vie humaine. On montre que c'est une erreur, mais on le fait en se taisant. On n'entre pas dans la lutte, ça ne sert à rien. Mais on vit ici un climat qui doit être le climat monastique. Et que la vie et la recherche de la vérité ne doit en rien diminuer la force et l'intensité de ce climat. Au contraire, elle doit être là pour tout le temps rappeler ce primat de l'adoration, de la contemplation. Au niveau chrétien, c'est très très important cela. Nous vivons comme des chrétiens parfaitement conscients de l'exigence de la vie chrétienne. Qu'on soit religieux, qu'on soit, on est tous baptisés, qu'on soit dans le monde et qu'on veut se former pour être des témoins de la vérité dans le monde, on ne sera témoin de la vérité dans le monde que si on est lié au Christ. Lié au Christ par notre vie chrétienne et dans notre vie chrétienne, et peut-être même consacré, une consécration particulière. Et si on est religieux, cette consécration est visible. Elle nous donne une forme de vie particulière. Mais la forme de vie que nous menons ici, voyez, assume la recherche de vérité. Et non pas l'inverse. Parce qu'il y a une tentation permanente, hein, faut pas l'oublier. Parce que nous vivons dans un monde où, de fait, l'université s'est séparée de l'Église. Alors l'Église a couru par derrière en formant des universités catholiques qui, elles-mêmes, deviennent constamment relatives aux universités tout court. Et non pas le poids qu'il faudrait. Et nous essayons, nous, non pas du tout de nous opposer à cela, pas du tout, mais nous essayons humblement, petitement, parce qu'on est très petit, hein. Si vous regardez ça au point de vue économique, au point de vue tout simplement du poids que ça peut représenter, au point de vue de l'Église, on est une très bonne chose. On est des petits. On est des benjamins. Mais on doit comprendre la dignité de cela et la grandeur de cela pour l'Église d'aujourd'hui. Mais j'espère que vous comprenez suffisamment nettement ce que je veux dire. Parce que ça me semble capital. Vous voyez ? Et si on fait autre chose, on est en dehors de la volonté de Dieu, de la volonté du Christ et de l'Esprit Saint, et de la volonté de Marie et de Saint Jean. Jean est avant tout le disciple bien-aimé. Avant tout. Ce disciple bien-aimé est théologien. Et ce théologien est très intelligent. On est bien tous d'accord là-dessus. Et donc notre lien avec Saint Jean, qui se veut très profond, fait de nous en premier lieu des disciples bien-aimés du Christ. Quand je parle de vie monastique, je parle de la formation de ces disciples bien-aimés. Et je crois qu'on ne peut se former vraiment comme disciple bien-aimé du Christ que si on vit de l'esprit de la vie monastique. Qui, cet esprit, pour les frères, s'incarne dans une certaine forme de vie religieuse. Qui, chez les contemplatives, s'incarne dans une forme de vie religieuse très absolue. Qui, chez les apostoliques, s'incarne dans une autre manière de vie monastique, qui reste apostolique. Et qui, chez les laïcs, chez les chrétiens tout court, s'incarne dans une autre forme de vie monastique, qui peut exiger une consécration personnelle dans le monde, qui peut se réaliser dans des foyers chrétiens. La vie de l'oblature ne s'oppose pas au mariage. Au contraire, d'une certaine manière, elle est très heureuse d'incarner dans le point de vue du mariage. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que ça fait que l'esprit de la vie monastique doit imprégner toute notre vie chrétienne. Le chrétien, c'est toujours en premier lieu un solitaire qui cherche la vie contemplative parce qu'il cherche ce lien avec la vérité divine et qui veut cette vérité divine. Alors je crois que c'est cela qui doit donner notre originalité, puisqu'il faut toujours chercher le caractère spécifique dans lequel on veut vivre. C'est premièrement et en premier lieu notre vie monastique, qui n'a pas la rigidité de la vie monastique de Saint Bruno, qui n'a pas la rigidité de la vie monastique de Saint Benoît, qui a cette forme de souplesse de la vie monastique de Saint Dominique. Il a inventé de son temps une vie monastique très souple comparativement aux cistériens, aux cisterciens, espèce de bénédictins. Vous voyez bien, les cisterciens, c'est Saint Benoît, mais d'une modalité particulière, spéciale. Et Saint Bruno, alors lui, qui trouve encore une autre forme. Et Saint Dominique a compris que pour que la vie monastique puisse exister dans une plus grande souplesse et dans une exigence de recherche de vérité, il fallait la pauvreté. Il fallait la pauvreté. n'existent pas du tout de la même façon. Chez Saint-Bruno et chez Saint-Benoît. La pauvreté de Saint-Dominique, c'est la pauvreté de la vie apostolique, c'est la pauvreté de la vie monastique apostolique. Il faut être très pauvre pour que la vie monastique ait cette souplesse. Et la plupart du temps, on ne comprend rien du tout à cette souplesse de la vie monastique si on n'est pas pauvre de cœur et d'esprit. Et que cette pauvreté s'incarne. C'est très très important ça pour l'équilibre et l'harmonie de notre vie. Si on ne comprend pas ça, je crois que très souvent, on se rend en porte-à-faux. La pauvreté dans notre vie monastique, dans notre vie apostolique, est absolument nécessaire. Un esprit de pauvreté. Et dans notre monde d'aujourd'hui, c'est absolument capital. On veut construire une Europe sur la richesse et non pas sur la pauvreté. C'est sûr. Sur le commerce. On sait qu'il y a un geste magistral du Christ. Maison de mon père, une maison de commerce, mais une maison de silence et d'adoration, une maison de recherche de la vérité. Il faut de temps en temps se demander si nous ne sommes pas contaminés par le commerce. Il faut avoir une âme de pauvre. De Saint-Dominique, à la manière de Saint-François. Les deux sont des amis et il y a une espèce de coopération entre les deux, ces deux pauvretés. Celle de Saint-Dominique, elle est très intérieure. Mais cet homme si doux qui était Saint-Dominique, c'est un homme si doux, très fort dans la douceur. Cet homme si doux a maudit ses frères s'il cherchait des couvents qui ne seraient pas pauvres. Ça, il ne faut jamais l'oublier, ça. Et si le Saint-Père a dit que notre vrai fondateur était Saint-Dominique, son testament reste vrai pour vous. Et Saint-Dominique veut qu'on maintienne la pauvreté dans nos prieurés, a fortiori dans les prieurés de formation. C'est absolument capital. Alors, il faut avoir les moyens pour pouvoir travailler, d'où la bibliothèque. La bibliothèque, c'est évidemment un instrument qui coûte cher. Donc, il faut le respect des livres. Un pauvre respecte les livres. Les livres qui font partie du bien commun. Ne jamais l'accaparer pour vous. Si vous avez besoin de certains livres, au point de vue philosophique, au point de vue théologique, vous demandez la permission. J'aime mieux ça que d'abîmer les livres du commun. Il faut beaucoup mieux. Je comprends très bien que certains livres qu'on doit fréquenter, on doit souligner quelquefois dans le texte. C'est normal pour s'y retrouver plus vite. Mais ne faites pas ça pour les livres communs. Est-ce que votre manière de travailler n'est pas celle du voisin? Alors, c'est sûr qu'on a besoin d'une bibliothèque. Et dans tous nos prieurés, on en a besoin. Et je suis toujours très heureux de constater dans les prieurés, quand il y a une vraie bibliothèque, l'instrument de travail. Il y a une cuisine, c'est normal. Mais la cuisine intellectuelle a besoin d'une bibliothèque. Absolument. Et là, je crois que c'est sûr, ça coûte cher aujourd'hui. Ça coûte très cher.
Et vous perdez ce que vous avez promis
Solesmes, non. Pas à la manière de la Grande Chartreuse, non. Mais vous devez l'être plus. Vous leur direz pas ça. Mais vous devez être plus par la pauvreté intérieure. Pour pouvoir avoir une souplesse de vie et de rechercher de temps en temps la brebis perdue. On ne dit pas qu'il a quitté son habit pour aller chercher la brebis perdue. Pas du tout. Il a quitté les autres brebis. Donc il a quitté la forteresse. La maison où on est, c'est toujours une petite forteresse. Mais c'est une forteresse qui doit être très légère pour ne pas rebuter. Pour ne pas dire, là, il y a des moines. Ils sont séparés. Et entre eux et nous, il y a un mur tel qu'on ne sait pas du tout. Non. Il faut que nous ayons ce souci de très grande pauvreté intérieure et extérieure aussi. Pour être plus libre, la liberté, la pauvreté nous libère et donne cette souplesse de vie. Vous savez bien, le signe de la vieillesse, c'est de perdre sa souplesse. Ça, c'est sûr. C'est le signe de la vieillesse. On sent très bien que la vieillesse commence quand on n'a plus la même souplesse, la même habileté, la même souplesse de vie. Alors, nous devons avoir une très grande souplesse de vie monastique, mais qui reste une vie monastique tout le temps. Jusqu'au bout. Et pour cela, il faut que nous ayons un sens très aigu de ce que c'est d'être totalement donné à Jésus. Puisque c'est ça la vie monastique. C'est de faire que notre corps est un temple de l'Esprit Saint. Et parce que notre corps est un temple de l'Esprit Saint, il a ses mœurs divines. Et il a ses habits divins. Parce qu'on ne met pas dans un temple n'importe quoi. Un temple ne change pas de mode tous les ans. Il reste lié à Jésus. C'est une espèce de témoignage permanent. Vous voyez, le silence et la pauvreté. Ah ça, je crois que c'est capital. Et si vous avez... Si vous prenez ces mœurs de silence et de pauvreté, quand vous serez dans un petit prieuré, vous exigerez le silence de toute la matinée. L'après-midi, quelquefois, la vie apostolique, on est bien obligé de parler. Mais au couvent, le silence continue. Sauf au moment où, pour telle ou telle raison, le prieur juge qu'il est nécessaire qu'on se rencontre. Et c'est le prieur qui doit, lui, régler ça. Vous voyez, le silence et l'habit, c'est très curieux que les deux vont ensemble. Et c'est important cela, parce que ça pousse jusqu'au bout les exigences de notre vie monastique. La vie monastique, parce qu'elle est une vie chrétienne, et une vie trinitaire. Elle a toute la souplesse de la vie divine. Et elle a toutes les exigences d'amour de la vie divine. Dieu est amour. Et la très sainte Trinité nous fait comprendre la fécondité de Dieu. Et notre vie monastique, contemplative, apostolique, doit avoir ce souci constant d'être une vie d'amour. Vous comprenez bien, le silence, l'habit, c'est pas pour aimer le silence pour le silence, c'est pas pour aimer l'habit pour l'habit. C'est pour nous maintenir dans une soif Alors, ces moyens très simples, ces moyens classiques, sont renouvelés par notre amour. Il y a un renouveau de la vie religieuse et le synode qui aura lieu bientôt, qui va essayer de réfléchir sur ce que c'est que la vie religieuse dans cette fin du XXe siècle pour l'Église. Doit faire comprendre, et nous devons chacun d'entre nous le comprendre, que ces moyens doivent être illuminés de l'intérieur, transformés de l'intérieur, c'est-à-dire dans l'amour qui nous lie au Christ et qui nous maintient dans l'intimité avec Jésus. Et qui fait que notre vie chrétienne, notre vie monastique, existe même sur un chantier. Je pense à la Guinée. Ça existe sur un chantier. On n'est pas très préparé pour ça. Vous n'êtes pas un officiat pour pouvoir travailler sur un chantier. Non. Mais vous faites un officiat pour travailler sur un chantier intellectuel qui est beaucoup plus difficile que tous les autres chantiers et beaucoup plus exigeant que tous les autres chantiers. Et pour cela, il faut le silence. Et pour cela, il faut avoir le courage et la joie d'être totalement consacré à Jésus d'une façon visible par la vie. Comprenons que c'est l'appel du Christ sur nous. C'est cet appel qui doit rester toujours en acte. Autrement dit, ce que le Saint-Père aime beaucoup et ne cesse de nous rappeler, l'épisode dans Saint Matthieu du jeune homme riche qui rencontre Jésus. Il faut bien vous dire que le jeune homme riche met très, très, très longtemps à mourir. Et qu'on peut très bien avoir l'air d'être entièrement donné. Et on ne l'est pas. Pharisaïsme qui s'introduit. Et que cette rencontre avec Jésus, qui s'est faite suffisamment forte pour que vous soyez là, pour tous ceux-là, aussi bien pour ceux qui vivent dans le monde et qui font des études, que ceux qui sont totalement consacrés à Dieu dans la vie religieuse. La vie chrétienne implique la rencontre avec Jésus. Et cette rencontre, elle est de tous les jours, de tous les instants. Et nous devons vivre notre vie monastique de cette rencontre avec Jésus. Elle a existé, elle est. S'efforcer de rencontrer Jésus. Vous savez cette parole de Saint Vincent de Paul qui est si belle. Lui, il avait la grâce de rencontrer Jésus dans le pauvre. C'est très beau. Et certains d'entre vous peuvent très bien voir ce type particulier de vocation. Vos frères qui sont au Brésil, il y en a qui ont cette vocation. Ceux qui sont à Pellevoisin, ils ont cette vocation. Rencontrer Jésus à travers le pauvre. Et quand Saint Vincent de Paul dit « Je Je n'ai pas encore rencontré Jésus aujourd'hui, et cela me manque terriblement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne cherchons pas les émotions sensibles, mais dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, ayons la soif tous les jours de rencontrer Jésus. Et demandons-le à l'Esprit Saint. Parce que c'est cette rencontre avec Jésus qui maintient en nous le vrai silence intérieur. C'est cette rencontre tous les jours avec Jésus qui nous fait comprendre le prix de la robe nuptiale. Dans l'Évangile, quand on chasse de la salle de noces celui qui n'a pas l'habit nuptial, qu'est-ce que c'est pour nous, ça ? Matériellement, c'est notre habit religieux. C'est notre habit religieux, la robe nuptiale. Intérieurement, c'est cette soif de rencontrer Jésus. C'est ça, la robe nuptiale. Une épouse ne peut pas vivre sans la rencontre de l'époux, quotidienne, à chaque instant. Alors il faut que nous demandions à l'Esprit Saint, pour animer toute notre vie monastique, pour faire que cette vie monastique soit vraie et ne soit pas pharisaïque. Que nous ayons tous un désir ardent de rencontrer Jésus tous les jours, de le rencontrer constamment, de le rencontrer le plus qu'on peut. Si on est dans le silence, on enlève les obstacles pour rencontrer Jésus. Si on a la robe nuptiale, on a tout fait pour que notre conditionnement ne soit pas un obstacle à rencontrer Jésus. Mais vous comprenez très bien que le silence et l'habit ne sont rien s'il n'y a pas cette rencontre avec Jésus. Toute notre vie monastique n'est rien s'il n'y a pas cette rencontre avec Jésus, la cellule intérieure de Catherine de Sienne. Cette soif qu'on doit avoir. Alors, comprenons que cette rencontre avec Jésus prend des modalités extrêmement différentes. Elle se fait même dans l'aridité, parce que l'aridité augmente notre soif. Et c'est dans la soif qu'on rencontre le plus Jésus. Catherine de Sienne dit, ce qu'il y a de plus grand dans notre vie, c'est le désir. Et elle a raison. C'est la fine pointe de la vertu d'espérance. La soif de rencontrer le cœur de Jésus. Et d'y demeurer. Il faut que tous les jours, à l'oraison, le matin, vous ayez cette soif et que cette soif se répète constamment durant la journée. Ceci, c'est capital. C'est une question de vie et de vie intérieure, de vie divine. C'est une question de vérité. Alors cette rencontre avec Jésus, elle peut se faire dans l'aridité, elle peut se faire dans la joie. C'est merveilleux, il est là. Elle peut se faire dans la découverte de telles paroles de Dieu. À travers les paroles inspirées de l'évangile de Jean, spécialement, nous restons en présence de Jésus. Du chapitre 6 au chapitre 12, les sept modalités de la présence de Jésus, c'est les sept modalités d'expérience que nous devons avoir. La soif de l'Eucharistie, du pain véritable, c'est Jésus, c'est le cœur du Christ qui se oratoires, dans les petits oratoires. Il faut ces diverses présences de Jésus. Et nous pouvons redécouvrir la présence de Jésus intérieure, la plus intérieure pour chacun d'entre nous. Je suis la résurrection. Et la résurrection, c'est la victoire de l'instant d'éternité sur la succession du temps. La succession du temps conduit à la corruptibilité et à l'anonymat. Alors que pour nous, la victoire de la succession des temps dans le mystère de la résurrection, c'est cette victoire de l'amour sur cet anonymat. Et qui fait nous sommes des êtres vivants de l'éternité. L'instant présent pour nous, c'est l'éternité. Le philosophe vit l'instant présent, le chrétien vit l'éternité, et le moine vit l'éternité. C'est cette modalité de présence que nous devons aimer beaucoup. Ils sont cette découverte merveilleuse Saint Jean nous fait, que l'Esprit Saint nous donne, et que nous devons garder, et qui maintient notre vie dans ce climat de présence de Jésus. La vie monastique, c'est la présence de Jésus en nous, au plus intime de nous, qui fait que nous sommes le temple de l'Esprit Saint auprès du cœur de Jésus. Enveloppé de son sang, enveloppé de son amour. S'il y a ça, vous comprenez que toutes nos études seront assumées par la présence de Jésus. Et Jésus vous obligera d'être attentif à ce que vous faites, parce que la vraie présence du Christ ne nous met pas dans l'abstrait. Elle nous met dans la réalité. Et elle ne nous met pas au-delà de notre devoir d'État. Mais elle transforme notre devoir d'État. Je vous rappelle que s'il y a des questions, qui sont des questions pour tout le monde, vous les mettez ici, sur mon bureau. Personne ne les prendra, je l'espère, en dehors de moi. Et c'est bon qu'il puisse y avoir des questions que vous puissiez poser autour de ça, ce primat absolu de notre vie monastique. C'est net, vie monastique apostolique. C'est un primat absolu. Et nos études se font dans ce climat. Ce qui fait comprendre que le rythme des études est différent pour chacun d'entre vous. C'est le père maître, c'est le père prieur, c'est le directeur des études qui sont responsables de ce rythme. Et s'il y a des conflits, ils viennent me trouver. Oui, parce que nous ne devons pas être, voyez, le juge de notre frère. Il y en a qui, pendant un certain temps, ne peuvent pas vivre tous les cours. Très bien. Les cours sont pour vous et non pas pour moi. C'était pour moi, je vous exigerais tous d'être là, debout pendant tout le cours. Pour être sûr que vous ne dormez pas. Et comme les cours sont pour vous, je comprends très bien